avec une bibliothécaire professionnelle depuis lundi, et 35 bénévoles. Voilà. Donc c'est une bibliothèque de comité d'entreprise. Donc on est ouvert le mardi, mercredi, jeudi entre midi et 2h, donc sur le temps de pause des salariés. Et les bénévoles sont bien entendu des salariés de l'entreprise et des salariés en activité et des salariés retraités. Et parfois même des enfants de salariés. Voilà. Voilà, je vais vite fait dire à peu près ce que ça représente au niveau de la médiathèque. Enfin, la taille de la médiathèque, c'est 90 mètres carrés, c'est 1200 inscrits, 900 actifs, c'est un potentiel de 2000 personnes sur le site. Donc voilà. Et le temps est un peu compté, je vais passer directement aux missions des bénévoles. Il y a les permanenciers bénévoles, donc ceux qui tiennent les permanences entre midi et deux sur ces 3 jours par semaine. Et ils font du prêt-retour, des réservations, des prolongations, des inscriptions, des nouveaux abonnés. Ils font les visites de la médiathèque pour les nouveaux arrivants, ils font le classement, ils font des sélections coup de cœur. Et puis les bénévoles retraités, certains viennent sur des temps de permanence et d'autres viennent sur des demi-journées. Et là, elles font de l'équipement, une couverture de livres, du désherbage et du classement. Donc, bien sûr, elles font selon ce que je leur donne chaque fois qu'ils arrivent. Pour ces bénévoles retraités, soit je suis là et je leur dis ce qu'il faut faire, soit je ne suis pas là et je leur laisse un petit dossier et ils savent ce qu'ils doivent faire. Voilà. Et nous avons également 8 co-sélectionneurs. Donc, on a des comités de sélection, qui est un comité de sélection vidéo et un comité de sélection musique, donc comité de sélection d'acquisition, et qui est composé de salariés bénévoles aussi de l'entreprise. Et j'ai également, alors ça c'est les 35 bénévoles, mais il y a d'autres formes de participation qui sont notamment, j'ai travaillé sur une enquête cette année qui n'est pas encore sortie avec une bénévole qui est la responsable des enquêtes d'études marketing au sein de l'entreprise, qui a travaillé dessus bénévolement, en dehors de son temps de travail. J'ai un bénévole qui travaille au service internet qui m'a aidé à travailler sur l'ergonomie du site, en dehors de son temps de travail aussi, qui m'a fait du code HTML. Voilà. J'ai un salarié de l'entreprise qui travaille à la com, qui m'a proposé de faire des photos lors des animations bénévolement. Il y a les bénévoles permanenciers qui viennent là toutes les semaines, une heure par semaine, voire j'ai un bénévole qui vient tous les jours de midi à 2h, qui est complètement investi. Et puis après, en règle générale, ils viennent une fois par semaine. Et après, il y a les bénévoles co-sélectionneurs, c'est une fois par trimestre, les comités de sélection. Et après, des bénévoles ponctuels, des salariés de l'entreprise qui participent vraiment ponctuellement sur des missions, comme ça, voilà, sur lesquelles je les sollicite en règle générale. Ou alors, ils viennent à moi aussi en tant que lecteurs, parce qu'ils sont lecteurs, et disent « je peux te proposer ces services-là si tu as besoin ». Après, il y aura des projets. Je réfléchis actuellement sur des projets qui va aussi amener d'autres participations de bénévolat. Il y a par exemple, on a un réseau social, un Facebook Maïf, donc en interne, où on a créé donc un groupe médiathèque CE Maïf. Et là, pour l'instant, c'est moi qui l'anime et qui l'administre. L'idée de ces communautés, de ces groupes communautaires sur ce réseau, c'est que c'est la communauté qui s'anime elle-même. Donc, je dois donner l'impulsion. Alors, c'est vraiment juste le début. Donc, on démarre. On ne sait pas trop vers où on va. Mais l'idée, quand même, de départ, c'est de commencer d'impulser. Et ensuite, les bénévoles animent eux-mêmes leur communauté. On a aussi un projet en partenariat avec une appli qui s'appelle BooksUp. Vous en avez peut-être entendu parler, qui propose du prêt entre particuliers. En fait, l'idée de départ, c'est de sortir les livres des bibliothèques, de nos bibliothèques personnelles, et qui leur donnaient une deuxième vie en les prêtant. Ces fondateurs là ont créé cette appli pour permettre de télécharger, de se créer un profil et via l'ISBN de le flashcoder et comme ça de se créer une bibliothèque virtuelle. Et ainsi, on peut savoir, je voudrais Boussole de Mathias Sénard, mais j'ai pas envie de l'acheter. Ah, mais il est là, c'est ma voisine qui l'a, je vois que ma voisine l'a, je vais lui demander si elle veut bien me le prêter. Voilà. C'est une appli qui permet, qui permet cette interaction. Et on va s'associer avec, enfin, on réfléchit à une association pour tester cette application au niveau de la communauté Maïf et des lecteurs Maïf. Donc là, je vais sûrement demander, si ça se prend forme, à certains salariés de l'entreprise de participer, de faire pour un test utilisateur, déjà sur une quarantaine ou cinquantaine de personnes, pour tester cette application et voir si ça, s'il y a de l'adhésion, voilà, au niveau des salariés. Voilà, c'est peut-être, peut-être que je m'arrête. Oui, alors Isabelle, oui.
Donc moi, je suis bénévole et je viens effectivement, sur mon temps de repas, faire une permanence par semaine. Pourquoi je suis là-dedans ? Parce que ça me fait plaisir. Dès que la notion de plaisir sera plus là, dans le boulot, il y en a déjà jusque-là, dès que la notion de plaisir sera plus là, et je pense qu'on est la plupart comme ça, on s'arrêtera. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'obligation. En l'occurrence, moi j'ai des déplacements. Si je ne peux pas venir, je préviens Agnès en lui disant « je ne peux pas venir ». On a un vivier de 35. Alors le jeudi, on est normalement 4 par créneau horaire. Donc, s'il y en manque un, c'est pas grave. S'il y en manque deux, c'est pas grave. S'il y en manque trois, c'est pas grave. Il y a toujours une bibliothécaire, normalement. ça nous permet aussi d'avoir une relation à nos collègues de travail qui est très différente. Parce que il n'y a pas de grade, donc il n'y a pas de hiérarchie, c'est des emprunteurs et on discute avec eux des bouquins. Donc ça, c'est des bouquins et des films, des DVD, etc. Donc voilà. Il y a une très bonne ambiance entre nous. Hein. Alors ça tient bien évidemment à la volonté d'Agnès et des élus du CE, mais ça tient aussi au fait qu'on se chambre tous. Alors c'est vrai que moi, j'y vais le jeudi. Je ne connais pas mes collègues, enfin les collègues permanenciers qui viennent le vendredi, le mardi ou les autres jours. Parce qu'avant, j'allais n'importe quand au CE, à la médiathèque. Maintenant, j'y vais les jours de mes permanences pour emprunter mes bouquins, pour les rendre. Mais on ne connaît pas forcément et il y a ce lien qui est créé. Alors grâce au réseau, effectivement, au groupe des bénévoles du CE. Et puis, il y a des moments de convivialité qui sont organisés par Agnès et qui contribuent beaucoup à cette belle énergie qui est entre nous.
Bon, merci pour ce beau témoignage qui donne très envie. Donc, on va maintenant passer à tout autre chose. Et donc, nous allons partir à Saint-Mélarangeal, donc dans l'agglomération bordelaise. Ah oui, pardon, excusez-moi. Voilà. Heureusement que Evelyne me rappelle dans quelle heure je voulais faire. Voilà, c'est participatif. Hein. Bon, alors, on va plutôt aller à Poitiers. Alors, on va se tourner vers... au pupitre, alors. Bon. Alors, donc, pendant que Frédéric va au pupitre, vous voyez que la fraternité règne dans cette table ronde. Alors, Frédéric Duton, alors au départ, vous aviez vu indiquer sur le programme Myriam Marcille, la directrice du service commun de la documentation de l'Université de Poitiers. Myriam Marcille étant empêchée, elle a délégué donc Frédéric Duton, qui est donc responsable des bibliothèques universitaires de sciences à Poitiers, responsable des services au public et de la communication. Voilà, et qui va donc nous présenter tout ce projet mis en œuvre au service commun de la documentation de l'Université de Poitiers. Merci Frédéric.
Ok. Donc je vais vous présenter en fait une démarche qu'on a mise en place en 2013, alors qui n'est pas une démarche du tout inédite dans le monde des bibliothèques universitaires, qui est une démarche d'enquête. C'est une enquête qui s'appelle LibQual. Si ça veut bien partir. Voilà. Donc je l'ai appelé comme ça et j'ai juste oublié de prendre mes notes qui sont là-bas. Donc en fait, là, on est sur vraiment un exemple de consultation des usagers. Et l'idée, c'est de vous montrer un peu quelles leçons on a pu en tirer, les réalisations qu'on a pu faire. Alors à l'origine du projet, Poitiers avait une réflexion autour d'un learning center, l'Université de Poitiers, qui était lié à un paysage de bibliothèque un peu vieillissant, très éclaté, puisque l'université a beaucoup de localisations et de bibliothèques sur le campus. Finalement, pour des raisons diverses et variées, notamment de changement d'équipe présidentielle, le projet a, a capoté. Et donc, il y avait quand même le problème de la nécessité de rénover les bibliothèques universitaires, leur offre en bâtiment et en services restait. Donc, on avait, nous, un certain nombre d'orientations et d'idées, mais on a décidé de se lancer pour un petit peu valider ce qu'on pensait ou pas dans une enquête. Alors, c'est une démarche qui est très, très cadrée. C'est l'enquête LibQual+. Pour ceux qui ne sont pas du tout dans le monde des bibliothèques universitaires, ça ne parle peut-être pas beaucoup. Donc, c'est un dispositif d'enquête qui a été créé aux États-Unis en l'an 2000 par l'Association des bibliothèques de recherche américaine et qui a essaimé après un petit peu partout dans le monde. Donc, il est arrivé en France autour de 2004. Depuis, il a été déployé. Donc, vous voyez, entre 2008 et 2013, il y a plus de 40 établissements qui l'ont utilisé pour un total de 89 000 réponses. Alors, ce n'est pas une enquête de public, ce n'est pas une enquête d'usage, c'est une enquête qui mesure les attentes, la satisfaction et le ressenti des usagers, leur perception du niveau de service. En fait, on leur demande de comparer. Il y a une série de questions. On leur demande d'exprimer pour chaque question le niveau minimum qu'ils jugeraient acceptable, le niveau maximum qu'ils désirent et le niveau qu'ils perçoivent. Et en fait, à partir des écarts, on peut mesurer soit si on est au-dessus des attentes, soit si on est en dessous des attentes. Donc si on a une marge de progression ou ce qui arrive très rarement, si on est supérieur en fait à leur désir. Donc on a monté une campagne de com. Donc, vous avez un certain nombre d'exemples ici. Voilà, le coût de l'enquête, c'est 3 000 $ pour participer à l'enquête. Le coût de la campagne de communication nous a coûté 3 600 €. L'enquête en elle-même a été montée entre novembre et décembre, enfin, a été administrée entre novembre et décembre, sachant que c'est une enquête qui s'administre en ligne. Et pour avoir le maximum de répondants, il est nécessaire de faire une campagne de communication active. Donc ça, c'est les résultats qu'on a eus. Donc on a eu plus de 2000 réponses, dont 1860 valides, parce qu'il y a un test de validité des questions. Alors, très clairement, on n'a pas atteint les objectifs de représentativité qu'on avait, qui étaient à peu près à 10% des effectifs. On était en dessous. Mais avec des variations très importantes selon les populations. Il y a des populations sur lesquelles on a touché 18% des personnes, et d'autres sur lesquelles on a touché 2%. Donc, des grandes variations selon les disciplines et selon les publics. Parce qu'une des particularités de Poitiers, c'est d'avoir beaucoup de bibliothèques pluridisciplinaires, donc avec des usages de la documentation très variés entre une bibliothèque ou l'autre, d'où la nécessité de regarder de très près les résultats localement. Alors, voilà en gros, je vous ai montré, enfin, je vous affiche à peu près à quoi ça ressemble, mais après, pour l'exploiter, il faut bien comprendre. En fait, il y a trois grands ensembles de questions sur la bibliothèque comme lieu, sur l'accueil et sur l'accès à la documentation. Et en fait, on demande aux usagers de noter entre 1 à 9 chaque groupe, chaque ensemble de questions. Et ça donne des moyennes. Alors, quand c'est en rouge, c'est que le niveau perçu, il est en dessous du minimum acceptable. Donc, c'est là où on a un problème, en fait. Et après, ça donne des jolis radars comme ça. Donc là, c'est pareil, des zones en rouge sur les zones sur lesquelles on a un problème. Donc ça, c'est le radar général pour les bibliothèques de Poitiers. Alors, je vous en ai sorti quelques-uns. Là, c'est pour les licences. C'est assez proche. Pour les masters, il y a un peu plus de rouge. Pour les enseignants, il y a beaucoup plus de rouge et pas au même endroit. En fait, il y a plus de besoins sur la documentation que sur les espaces. Le bleu, c'est l'accueil. Ça, c'est les étudiants en médecine. Ça, c'est un cas très particulier des BU de Poitiers. Bibliothèque de 200 places pour une population de 4000 étudiants. Vous comprenez le rouge sur les questions sur les espaces. Ça, c'est science. Science, c'est chez moi. Le rouge, c'est parce qu'il y a du bruit. Trop de bruit. Alors, qu'est-ce que nous... Je passe très vite, hein, si vous avez des questions, c'est le principe de la table ronde. Ça nous a permis de conforter certains projets, notamment en termes d'immobilier. Il y a eu vraiment, ça nous a permis de faire remonter plein de besoins sur le manque d'espace de travail en groupe, notamment, sur après des problèmes type il fait trop froid, il fait trop sombre, il fait trop chaud. Voilà, ça nous a permis aussi de cibler des axes de progression et de travailler pour s'améliorer, notamment sur ces points-là, puisqu'on avait des retours sur un déficit sur l'accompagnement individuel, sur une méconnaissance aussi de certains services. Hein, puisque... Alors, suite à l'enquête, mais c'était un projet qui était déjà lancé avant, on a travaillé sur la rénovation complète d'un espace de bibliothèque pour proposer un espace de travail dédié au travail de groupe à destination des étudiants. Et donc, cet espace s'appelle La Ruche et est ouvert en janvier. Donc là, vous avez des premières images. Voilà, un espace qui est... En fait, c'est un lieu axé autour des pratiques de travail à plusieurs et des usages numériques. Donc pour l'instant, on a tout l'équipement. Enfin, il y a des salles de travail. Il y a du mobilier spécifique, comme ça, par exemple. Salle de travail ouverte. Les étudiants peuvent parler, peuvent boire un café. Ce que vous voyez là, c'est des salles de travail fermées, là, la partie rouge. Il y a 13 salles de travail qui vont de 4 à 12 places. Et ce qu'on est en train de mettre en place, c'est le prêt de matériel numérique. Donc ça va aller du vidéoprojecteur à l'appareil photo, en passant par les caméras, les clés USB. L'idée étant de travailler sur... de mettre à disposition des étudiants, enfin de toute la communauté universitaire, des espaces enfin, qui sont là pour aider à la production aussi étudiante, que ce soit de la production rédiger leur mémoire comme faire du montage vidéo. Ça va, on a toute la gamme. Alors, je reviendrai plus largement sur le projet si vous le souhaitez, mais je crois que j'ai mangé mon temps.
Voilà. Merci Frédéric pour cette concision. Merci. Bien, alors, ben, nous allons passer maintenant donc, à Patrick Tréguer, c'est ça, hein, c'est breton, donc Tréguer, voilà, qui est donc responsable. Non, mais personne n'est parfait. Qui est responsable du pôle de création numérique de l'espace Mendès France, qui est donc le centre de culture scientifique, technique et industrielle de Poitou-Charentes. C'est comme ça qu'il faut dire.
Bah, je ne sais plus si on dit Poitou-Charentes. Oui, dire.
Du territoire.
ALPC, on va dire, pour l'instant. Voilà. Puisque le nouveau nom n'est pas encore totalement officialisé. Voilà. Voilà. Donc, très rapidement, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, la particularité, c'est que je représente ici un centre de culture scientifique et encore une petite partie d'un centre de culture scientifique, plus dédié à la création numérique. Et les deux mots sont importants, création et numérique. On tient particulièrement au mot création. Alors j'en rajouterai un petit peu pour enchaîner sur ce que j'ai entendu ce matin par rapport au mot numérique qui revient régulièrement et qui pour nous pose un vrai problème sémantique. Ce qu'on a plutôt tendance à défendre, et c'est lié à une expérience de 15 ans dans ce domaine, c'est la question de la culture numérique. Voilà, c'est pour un petit peu préciser la façon dont je vais développer autour de la présentation rapide de deux ateliers, plus en particulier, où la notion de participatif nous paraît évidente. Donc sur la question des bibliothèques, évidemment, je vais être un véritable candide, même si je pense que nos différences peuvent donner un éclairage intéressant pour des bibliothèques. Hein. Sur la question, en tout cas, évidente, est la notion d'accueil des publics. Des fois, on nous dit le public dans une vision un petit peu au singulier. C'est vrai que la question des publics, pour nous, est essentielle dans la déclinaison des actions, que ça soit de culture scientifique ou de culture, hein, parce que c'est toujours aussi une autre difficulté dans cette approche multidimensionnelle, c'est de séparer à la fois ce que peut être la culture scientifique, ce que peut être la culture. Les points communs qu'on a, je pense, dans tout ce que j'ai entendu, c'est évidemment l'échange de connaissances, de savoirs et de lieux qui doivent hybrider. J'ai envie d'employer ce mot, je crois qu'il a été employé un peu ce matin, dans une période charnière. Non seulement charnière en termes de territoire, je reviens sur cette fameuse réforme territoriale, mais pas que, parce que je pense que la culture numérique et l'évolution du numérique nous confrontent à de véritables problèmes. Alors, pour faire très synthétique, hein, je ne suis pas un aficionado du numérique pur et dur. Je suis même, avec l'équipe, on est assez critique, et je reviendrai sur ce développement de l'esprit critique, par rapport aux questions de l'innovation pour l'innovation. Il y a un artiste que j'aime bien qui s'appelle Nicolas Maigret, qui a même développé tout un programme artistique assez intéressant qui s'appelle Disnovation et qui interroge un petit peu sur le diktat de l'innovation pour l'innovation. Peut-être c'est intéressant de réfléchir aussi sous cet axe. De façon très pragmatique, je voulais mettre un petit éclairage sur deux ateliers qui nous ont appris énormément de choses. Le premier, c'est un atelier pour des femmes de plus de 70 ans, de création numérique. Donc on est parti sur le constat. Alors il existait ce type d'atelier à Paris avec une dame qui s'appelle Albertine Meunier. C'est pas son vrai nom, hein. Je dirais pas son vrai nom là, mais son nom d'artiste c'est Albertine Meunier, qui avait fait les ateliers Hyper Old pour les femmes de plus de 70 ans, qui est un travail remarquable. Pourquoi ? Parce que Albertine a la double casquette, elle travaille à Orange, elle est ingénieure de recherche à Orange, et elle est artiste, et ce qu'elle fait artistiquement, c'est toujours très, très joli, très beau, très conceptuellement très bien senti. Et on a été à Paris pour rencontrer Albertine, parce que cette idée d'atelier pour des femmes, d'abord, ça c'est... Il fallait défendre l'idée d'avoir que des femmes qui puissent participer aux ateliers. Et puis, de plus de 70 ans, alors Albertine, dans son credo, c'était un peu l'idée de dire on nous fait plein de recherches autour des digital natives. Bon, ça, c'était déjà en 2009-2010. Albertine disait mais c'est intéressant de voir comment l'appropriation s'opère avec ces publics-là. Donc on a commencé, nous, sur le réseau Hyper Old, on a commencé en 2013, et depuis, on a un peu rendu le type de dispositif autonome, pour plein de raisons, parce que c'est vrai que les allers-retours à Paris, bon, on n'avait pas toujours forcément le temps, on reste toujours en contact avec Albertine, mais ce qu'on veut derrière, c'est pouvoir développer, enfin, tester, en tout cas expérimenter, la possibilité que les dames des premiers ateliers puissent devenir elles-mêmes des formatrices, entre guillemets, parce que former à la création et former, j'ai entendu le mot plaisir, et je crois qu'il est important, former ces dames à la joie de s'approprier les outils numériques et de déterminer elles-mêmes leurs usages. Alors évidemment, c'est pas totalement freestyle. On a un encadrement artistique et on a un encadrement de type médiation numérique. Alors ça, c'est un dispositif qui est important pour nous, c'est de prendre en compte cette médiation numérique, c'est-à-dire des gens qui ont des compétences techniques, évidemment, mais pas que, parce qu'on a pris aussi quelques gamelles avec des techniciens du numérique qui n'avaient aucun sens de la pédagogie ou de la médiation. Après, on pourrait discuter longuement sur ces deux mots. En tout cas, nous, on revendique médiation pour avoir des gens qui aient cette sensibilité de l'encadrement, de la patience et de la spécificité en direction de ces dames, avec tous les facteurs cognitifs, psychologiques, physiologiques, qui font que chaque participante à l'atelier a ses caractéristiques propres et d'être capable de sentir ça. Donc maîtrise technique d'un côté, on va dire peut-être si on parle en pourcentage, ça représente 30% de l'ensemble des compétences nécessaires pour tenir ces ateliers, et 70% de capacité de médiation et de pédagogie pour arriver à mettre en place des ateliers. Alors très concrètement, ce qu'on fait, c'est aller dans les musées avec les dames pour faire des petits reportages vidéo, des interviews avec des enregistreurs numériques audio, une page Facebook qui a été créée. Et dernièrement, depuis 2 ans, on avait fait un rapprochement aussi avec la Gamers Assembly, qui est le festival du jeu vidéo à Poitiers, hein, plutôt ambiance geek ado. Et cette année, ils ont développé un projet assez intéressant qui s'appelle Famille Digitale. Ce qui nous paraissait être une évidence, c'est de pouvoir emmener et présenter à la culture du jeu vidéo, parce qu'on revendique et on défend cette idée de culture du jeu vidéo. C'est maintenant, les jeux vidéo ont plus de 30 ans, hein, je pense qu'on peut les reconnaître en tant que tels sans problème. Et nos mamies ont parfaitement, sont parties billes en tête sur ce projet et ont même créé un jeu vidéo, c'est-à-dire elles ont écrit le scénario du jeu vidéo. Elles ont été épaulées par un de nos développeurs, codeurs, et ce jeu vidéo a été présenté à la dernière édition de la Gamers Assembly et revendiqué haut et fort par les 7 mamies qui suivent le mouvement. La doyenne a 97 ans. Voilà. J'ai pas de présentation. Pour ceux qui sont intéressés, je pourrais vous donner les... Il y a eu pas mal de... Oui, ben c'est... en général, elles sont actives, hein. Elles se déplacent. Oui, j'y ai pensé, à vrai dire. L'idée étant de voir... J'ai parlé du mot appropriation, parce que très rapidement, parce que je pense que mon temps de parole va arriver à sa limite. C'est dans le phénomène d'appropriation et dans la culture numérique, ça nous semble extrêmement intéressant et c'est la vraie difficulté. Je vous parlais, en 15 ans, on a vu des phénomènes de mode, on a vu des labels, on nous a fait faire tout et n'importe quoi avec des labels, voilà, puis des choses très cycliques. Pour nous, ce qui est important, c'est ce phénomène d'appropriation. Et puis derrière aussi, c'est un mot important quand on parle de numérique et même quand on parle de projet participatif, c'est cette problématique de la représentation. Et l'outil numérique peut être assez intéressant parce que la représentation entre le même outil numérique dans l'espace mental d'un ado, d'un gamin, d'un ado, d'un adulte ou d'une dame de plus de 70 ans, ça projette des choses totalement différentes. Et que ce phénomène d'appropriation, analyser comment se développe ce phénomène d'appropriation, de représentation, qui est fortement dynamique. Avec les mamies, donc depuis 2013, on a pu voir l'évolution au travers de l'usage d'outils comme Skype, qui est finalement peut-être le plus demandé de façon initiale pour être en relation avec la famille. Mais c'est aussi, de façon très sympathique, se tirer la bourre avec les petits-enfants en disant « mais toi, tu as ton Facebook, moi j'ai le mien », et voilà, remettre un peu les choses à plat. Mais derrière, c'est aussi l'appropriation dans la découverte de choses qu'elles ne pensaient pas dans leur parcours de vie découvrir à ce moment-là. On leur a fait visiter la fanzinothèque. On a même fait dernièrement un projet qui s'appelle Flip Paper et qui est basé sur le flipper. Et je vous garantis que les mamies au flipper, les gamins n'ont pas réussi à les déloger. Donc voilà, c'est des choses assez intéressantes. Et le jeu vidéo est extrêmement intéressant. C'est vrai que bon, vous savez tous les programmes qui existent et que derrière le jeu vidéo, on a des choses intéressantes. Dernier point, après, c'est les ateliers qu'on fait aussi. Alors ça, c'est la chance. Il y a un mot important dans ce qu'on développe, c'est l'approche réticulaire, l'approche en réseau. On est convaincu que tout ce qu'on fait, c'est par cette dynamique de réseau. Alors évidemment, on peut théoriser à l'infini sur cette notion de réseau, mais très concrètement, à Poitiers, on a la chance, par exemple, sur la question du handicap, d'avoir des associations admirables, dont une en particulier que je tiens à citer, qui s'appelle l'ALEPA, qui travaille avec des enfants autistes en relation avec les parents, et avec lesquels on a développé dernièrement des ateliers de création numérique orientés création sonore. On s'est beaucoup interrogé sur le rapport des enfants autistes au son. Et moi, j'ai pas mal changé personnellement parce que j'ai rencontré un compositeur qui est autiste Asperger et qui est un compositeur qui bosse dans toute l'Europe. Je peux citer son nom, hein, c'est Luc Kerléo. Il y a une très belle émission sur France Culture où il explique son monde fractionné, son monde d'autiste par le biais des sons, et c'est extrêmement passionnant. Et donc on a développé ces ateliers de création sonore avec ces jeunes autistes, mais évidemment nous on assume ce travail de médiation numérique en relation avec des professionnels soit de structures qui accueillent des personnes en situation de handicap, d'autisme, soit avec l'ALEPA qui fait l'interface. Et on a même une autre association qui s'appelle La Mauvaise Réputation, qui développe aussi un interfaçage pour l'organisation, la logistique. C'est toujours un peu compliqué dès que on envisage le déplacement, parce qu'on veut que les ateliers se fassent à la fois dans les structures, mais aussi à l'espace Mendès France. Donc mettre tout ça en place, et finalement avec trois structures, on arrive à mettre quelque chose qui censément nous donne l'impression de tenir la route, qui nous interroge, hein, c'est pas des choses, on a plein d'interrogations, c'est des portes qui s'ouvrent, mais qui en tout cas nous ont les deux ateliers nous ont permis de faire un pas de côté absolument salutaire. Et je pense que dans nos recherches communes, cette notion de pas de côté peut être parfois extrêmement intéressante pour essayer de comprendre ce que peut être la projection, l'espace mental ou la représentation des publics avec lesquels on va travailler.
Bien, merci Patrick. On sent là aussi la passion. Bien, je vous ai promis Saint-Médard-en-Jalles. C'est le tour de Saint-Médard-en-Jalles. Donc, Evelyne Guiraud donc, dirige la médiathèque et les archives municipales de Saint-Médard-en-Jalles depuis 2008. Donc, commune de 30 000 habitants, la plus étendue de Bordeaux Métropole. Et donc un réseau de 4 établissements, la médiathèque donc, de centre-ville, la ludo-médiathèque, une petite annexe dans un établissement de personnes âgées, et donc les archives municipales. Et Evelyne nous arrive auréolée du prix Livre Hebdo de l'animation en décembre 2015 avec son équipe. Donc,
c'est pas moi, hein. C'est mon équipe.
Bon, c'est Evelyne et son équipe. Et donc elle va nous présenter ce projet dont vous avez sans doute déjà entendu parler, notamment à travers ce prix. Voilà.
Evelyne, c'est merci à vous. Olivier. Bonjour à tous. Donc, ainsi qu'Olivier l'a dit, moi j'ai pris la direction de la médiathèque et des archives municipales en 2008. À mon arrivée, nous avons travaillé sur une démarche de projet de service et nous sommes tombés d'accord ensemble avec l'équipe sur trois valeurs, trois mots-clés qui guident chacune de nos actions entreprises depuis lors. Ces trois mots sont la proximité, la convivialité et l'innovation. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi nous sommes tombés sur ces mots-clés, comment nous avons décidé de les mettre, de les trouver. Mais en tout cas, je peux vous expliquer comment on les a déclinés depuis. Olivier vous a parlé d'une ludomédiathèque, effectivement, qui est ouverte en octobre 2013 et dont le succès ne cesse de se démentir, par exemple. Et nous sommes tout à fait dans ces trois valeurs-là. Dans le cadre de ce projet de service, nous avons mis en œuvre une politique de chantier, ce que nous avons appelé des chantiers, avec des chefs de chantier qui n'étaient pas moi, mais des chefs de chantier que j'avais désignés dans l'équipe par rapport à leurs compétences, leur savoir-faire, mais aussi leur savoir-être, et notamment un chantier autour de l'animation au sein du service et plutôt un questionnement aussi sur notre politique d'action culturelle. À partir de là, comme toute démarche, nous avons dressé un constat. Ce constat a prouvé qu'il y avait énormément d'actions, d'animations entreprises dans le service et dans la médiathèque en particulier et dans chacun des secteurs. Secteur adulte, secteur jeunesse, musique, vidéo, logitech, etc. Tout cela est très traditionnel aujourd'hui. Mais finalement, nous avons décidé de mettre en commun toutes les ambitions de chaque secteur de façon à avoir une politique un peu plus, non pas uniforme, mais en même temps un peu plus surtout marquée sur le territoire. Puisqu'à l'issue du constat, la question qu'on s'est posée, c'était de savoir, d'accord, on fait beaucoup de choses, ça nous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Bon, les gens ont l'air contents, mais quelle est notre plus-value sur le territoire? Qu'est-ce que ça nous rapporte, notamment en tant que service directement? Alors, je ne vous ai pas dit, mais la médiathèque, ça marchait bien. Il y avait pas mal d'inscrits. On était au-dessus des stats et on continue à être un petit peu au-dessus des stats du ministère de la Culture. Bon, l'enjeu, ce n'était pas tellement de développer plus les publics, mais c'était plutôt, au contraire, de changer l'image de la médiathèque sur le territoire de Saint-Médard-en-Jalles. Et c'est également de rayonner peut-être au niveau de la métropole, en étant un peu plus fou au niveau de l'ancienne région Aquitaine. Mais alors là, ça a dépassé nos espérances, puisque c'est national, suite au prix Livre Hebdo. Alors, comment avons-nous procédé? Il y avait quelques conditions, bien sûr, à respecter dans cette entreprise. Notamment, c'était un travail d'équipe. L'idée, c'était de fédérer l'équipe à travers cette politique d'action culturelle, de façon à ce que chacun travaille avec un des autres secteurs et pas seulement au sein de son secteur. Donc, de créer un moment commun pour lequel tout le monde allait s'investir. D'en faire un temps fort de lecture publique sur le territoire communal. Et là, ça a mis en jeu d'autres acteurs que simplement mon service. C'est-à-dire qu'il a pu, ne serait-ce que dans le calendrier de toutes les manifestations communales, déterminer un temps qui soit consacré à la lecture publique. Parce que nous avons beaucoup de choses, spectacles vivants, danse, théâtre, patati patata. Donc un temps culturel vraiment dédié à la lecture publique. Évidemment, ce projet a été présenté aux élus de l'époque. Le maire à l'époque me disant, mais pourquoi voulez-vous un temps fort sur la médiathèque? La médiathèque est assez repérée sur le territoire, ce qui peut être très logique comme réflexion. Mais l'enjeu, comme je vous l'ai dit, c'était de changer les représentations que la population pouvait avoir de notre service, puisque tout le monde est toujours d'accord pour qu'il y ait une médiathèque sur le territoire, même ceux qui n'y viennent jamais. Mais le but, c'était quand même qu'ils y viennent un peu plus et qu'ils découvrent qu'il s'y passait autre chose que du pré. Alors voilà, ça a été calé dans le temps d'animation municipale. L'autre enjeu, l'autre commande du maire, c'était de dire, mais alors, il ne faut pas que ça coûte plus cher. Donc, il ne fallait pas que je demande un budget d'action culturelle supérieur à celui que j'avais. Eh bien, quand on a moins d'argent, on devient un peu plus créatif. À partir de là, nous avons brainstormé avec mon équipe. Nous avons travaillé de la façon suivante. Chaque année, je donne un thème générique sur sur quoi vont être les imaginaires. Et en même temps, après, on travaille par groupe projet. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les gens de l'équipe s'impliquent dans une des actions, puisque ce festival, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il durait 15 jours quand même, sur 2 semaines. Alors, nous n'avons pas augmenté notre budget d'action culturelle, nous n'avons pas demandé d'argent en plus, mais la subtilité, ça a été de faire adhérer les autres services municipaux à notre projet, de façon à ce que d'autres coûts annexes puissent être pris en charge par d'autres services. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, nous avons eu la communication avec nous, qui nous a beaucoup aidés, les ressources humaines, les services techniques, le restaurant municipal, etc. Donc voilà un peu sur la méthode de travail. Donc ça a eu lieu en 2010. La première thématique choisie, c'était celle de l'image. Les imaginaires, l'image, ça me semblait logique de démarrer sur ce thème-là. Alors, petite précision aussi, les imaginaires de Saint-Médard-en-Jalles et non pas de la médiathèque. Pour la raison que je vous ai expliquée tout à l'heure, s'il y a un rayonnement territorial et une appropriation par les élus, par les collègues, et voire même par les autres partenaires sur le territoire, les maisons de quartier, les associations, etc., les écoles, bien entendu, les compagnies théâtrales, etc. Et nous sommes allés jusqu'à déposer la marque Les imaginaires de Saint-Médard-en-Jalles auprès de l'INPI. Dans ce même ordre d'idées, le désherbage de nos établissements, que nous connaissons tous, bien entendu ici, dont nous connaissons tous le fonctionnement, nous avons brainstormé, nous l'avons appelé le bibliosouk. Et bibliosouk, c'est également un terme déposé auprès de l'INPI. Donc ne l'utilisez pas, sinon... voilà. Alors, les imaginaires se passent de la façon suivante. Nous travaillons pendant 1 an, mais ça, éventuellement, je pourrais répondre à vos questions après, si ça vous intéresse. Nous travaillons pendant toute une année sur le thème et pendant 15 jours, nous continuons à faire fonctionner le service comme d'habitude, c'est-à-dire nous ouvrons comme d'habitude et nous travaillons beaucoup. Le succès, il y a eu 5 éditions en tout. Le succès est au rendez-vous. Sur les 5 éditions, nous avons en tout touché 10 000, un peu plus de 10 000 personnes fréquentant nos actions d'animation. Quoi vous dire d'autre ? Nous fonctionnons aussi, puisqu'il s'agit de pratiques participatives, en faisant appel à la population. lors d'appels à participation qui ont lieu bien en amont des imaginaires. C'est-à-dire, par exemple, chaque édition des imaginaires va avoir un thème, hormis le thème, mais un instant participatif très fort. Et cet instant-là change chaque année. Par exemple, la première édition en 2010, c'était autour du cinéaste Gondry, et notamment de son film Be Kind, Rewind, Soyez sympa, rembobinez, pour lequel il avait dressé un protocole et qui permet à tout un chacun de pouvoir filmer et élaborer un film, un court-métrage diffusable pendant 6 minutes. Donc là, nous avions lancé l'appel à participation. Nous avons eu 25 retours de films diffusés dans la grande salle de spectacle, 800 spectateurs, etc. Bon, ça a été un très gros succès sur cette participation-là. Et chaque année, donc, on a mis en place un projet totalement participatif et à chaque fois inédit. Donc l'année suivante, ça a été sur le multimédia, autour d'une écriture numérique participative qui s'appelait Mélimédia. Nous sommes partis d'un travail d'auteur, hein, Martine Perrin, pour ne pas la nommer. Nous avons travaillé avec, ce que vous disiez tout à l'heure m'interpelle, puisque nous avons travaillé avec le foyer Marc Boeuf, qui sur la commune est un foyer de personnes handicapées mentales, et que nous avons comme ça pu plonger dans le numérique, le multimédia, et tout le monde s'est vraiment totalement éclaté. Ça a vraiment eu beaucoup de succès aussi. Ensuite, sur la musique. Ensuite, nous avons décliné ça autour du jeu, puisque la Ludo a ouvert en 2013. Donc là, c'était le thème du jeu en 2014. En 2013, nous avions fait une année blanche parce qu'on réinformatisait aussi tout le réseau. Donc, c'était un peu difficile d'être sur tous les fronts. Et enfin, en 2015, le sujet qui a été retenu, ça a été le polar, celui du polar. Et là, c'était une... Il y a toujours plein de manifestations, mais je vous parle vraiment de la manifestation phare qui, là, s'appelait « Enquête dans la ville ». Et il s'agissait de faire participer les habitants à la résolution d'une énigme montée, élaborée par les bibliothécaires, par l'archiviste, à partir d'un fait divers qui avait eu lieu en 1918 à Saint-Médard-en-Jalles. Il y a eu un hold-up à la poste. Ce fait divers n'a jamais été résolu. Et nous avons décidé de broder là-dessus. Donc j'ai apporté un dossier aussi pour pouvoir vous montrer. Mais en même temps, je pense que plutôt que mes paroles, le film que nous allons vous montrer, qui a été réalisé par le service communication de la ville, le film qui dure 6 minutes, va vous permettre de vous rendre compte un petit peu de ce que pouvait donner cette enquête dans la ville et les imaginaires de façon générale. Pendant que Bruno lance le film, je peux vous dire aussi, question de budget, hein, c'est toujours le nerf de la guerre, que les imaginaires sur chaque édition, lorsque je fais le total des dépenses que je divise par le nombre de personnes participantes, nous reviennent entre 2 et 5 euros par participant. Nous coûte entre 2 et 5 euros par participant. Je défie bien des organismes d'arriver à ce ratio. Donc, nous sommes très créatifs.
Merci. Ça fonctionne. Oui. Juste une question pour madame, s'il vous plaît. Pourquoi avoir déposé une marque ?
C'était toujours dans la volonté de faire adhérer le maximum de personnes au projet, notamment nous apporter une reconnaissance officielle de notre tutelle. Et le fait que ce soit de Saint-Médard-en-Jalles, on y tenait beaucoup, justement. Voilà. Sinon, les imaginaires existaient par ailleurs. Hein, il y avait déjà ce nom déposé. Et l'idée de faire ce dépôt de nom, c'était simplement marquer une reconnaissance forte de ce que nous voulions faire. C'est pas pour percevoir des royalties. Hein, c'était vraiment pour marquer le territoire, si je puis dire.
Bon, on peut lancer ?
Je crois pas. Il manque un petit peu de câble pour l'instant.
Bon. Alors...
Une autre question ? Du coup, pour Evelyne Guiraud, pour l'instant.
Il peut y avoir des questions aussi pour Patrick, Agnès.
Oui, non, c'est parce qu'Evelyne est restée là. Mais... Bon, sinon, on sera soit tous et puis on commence les questions.
Bon. Alors, le câble arrive.
Bon. Ah, le câble est là.
Pour le film que vous allez voir, nous avons travaillé aussi avec une compagnie locale qui s'appelle Au fil de l'acte. C'est-à-dire qu'à partir du scénario écrit par mes collègues, nous avons aussi travaillé avec un metteur en scène auteur qui a rédigé la résolution de l'énigme avec nous en collaboration et qui a dirigé la troupe pour pouvoir la mettre en scène sur les parcours au sein de la commune. Puisque cette enquête s'est menée sur tout le territoire communal, en fait, il s'est agi un peu d'un rallye historique et patrimonial naturel et historique sur la ville, sur 3 km à peu près. Donc on avait intérêt à ce qu'il fasse beau et on a eu de la chance. Je peux vous montrer le dossier vite fait, par exemple. Voici ce que, pour le hold-up, voici ce que mes collègues ont rédigé. Donc avec des photos qu'on a trouvées dans les archives de la ville, hein, qui ont été recherchées, un petit peu de publicité inventée. Les personnages suspects, voilà, etc., avec leurs caractéristiques. Puis voilà, et puis des quiz, et ce qui permettait aux gens de se diriger d'un point à un autre dans la ville, fait un rallye.
Bon, je peux peut-être pendant ce temps-là... Vous parlez de la bibliothèque municipale de Bordeaux, puisque quand j'avais été donc sollicité pour cette table ronde, j'étais dans ma fonction de directeur de la bibliothèque municipale de Bordeaux. Donc je vais quand même vous livrer quelques informations sur ce qui se fait à Bordeaux au niveau de pratiques participatives. Là, on est surtout dans l'action culturelle. Les collègues ont par exemple mis en place un café littéraire avec Radio Campus, un café littéraire qui s'appelle l'Esperluette. Et donc j'ai vu que la 8e édition a eu lieu le 26 mai. Et donc, en fait, ce sont les lecteurs qui sont enregistrés sur des thèmes. Il y a eu le livre de vos 20 ans, le livre que vous aimez offrir, le livre qui vous a fait grandir. Donc, à chaque fois, donc, des lecteurs donc, venaient effectivement présenter les ouvrages en question. Et ce sont eux qui étaient enregistrés et qui passaient à la radio. Il y a aussi donc, l'action qui s'appelle « Nos lecteurs ont du talent », considérant qu'effectivement, on pouvait mettre en valeur les talents des lecteurs. Il y a eu comme ça des expositions, des conférences, des présentations d'ouvrages donc, qui ont mis en valeur les talents de tel ou tel lecteur. Lors des bibliothèques qu'on appelle éphémères ou bibliothèques saisonnières, donc, il y a des concours graines de talent où on invite des personnes à venir présenter leurs talents et après à venir se produire pour celles qui ont été retenues, primées, de venir se produire à la bibliothèque centrale Mériadec. Il y a tout le travail... Alors oui, il y a cette grande manifestation sur Montaigne, Michel de Montaigne, qui est prévue pour l'automne prochain, qui va s'appeler Montaigne Superstar, qui vise à donner une image dynamique, contemporaine du patrimoine, et notamment de montrer toute l'actualité du personnage de Montaigne. Et maintenant, Montaigne est sur Facebook. Vous pourrez le trouver sur Facebook. Et Montaigne qui commente l'actualité et qui, en même temps, à partir de citations, c'est aussi des essais. Donc je vous invite à aller voir... un Montaigne complètement revisité, et vous verrez comment il a rencontré sur Mythique son ami Étienne de la Boétie. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. Alors, il y a toute la dimension, là, on parlait tout à l'heure de ludomédiathèque, hein, tout le jeu qui amène aussi toute une dimension participative, et en particulier dans la nouvelle bibliothèque de quartier qui se construit, enfin, les travaux vont commencer à l'automne dans le quartier de Codéran à Bordeaux. Il y a toute une dimension importante du jeu et prévu un baby-foot et un billard, par exemple, voilà. Et notamment pour des activités intergénérationnelles. Il y a eu une action d'indexation collaborative qui a été qu'en numérisant des gravures anciennes de Bordeaux, donc en les mettant en ligne, donc l'idée que le public allait pouvoir contribuer à identifier les lieux, à les commenter. Bon, finalement, il n'y a pas eu un très gros écho, sans doute par... manque de médiation suffisante. Voilà. L'indexation collaborative. Voilà. Et quand j'ai quitté Bordeaux il y a quelques semaines, il y avait un projet de biblioremix qui était en gestation, à l'initiative de Mélanie Archambault. Quand je vois... Non, Lionel n'est pas là. Donc, biblioremix qui est prévu, peut-être même avec une dimension métropolitaine. Hein, donc, Evelyne, qui est toujours là-bas, confirme. Voilà, on pourrait citer aussi le prix des lecteurs. Je pense que Samé Darangeal aussi participe, non ? Non. Le prix des lecteurs à l'initiative du festival donc, qui s'appelle l'Escale du Livre et qui associe un nombre de bibliothèques croissant. Et où là, vraiment, les lecteurs ont un rôle très actif. Il ne s'agit pas uniquement de voter, c'est qu'après, ce sont eux qui vont défendre aussi leur choix
qui font vraiment la sélection finale et qui vont rencontrer ensuite l'auteur qui a été retenu. Voilà. Donc c'est pas un simple vote dans une urne. Voilà quelques témoignages concernant la bibliothèque municipale de Bordeaux. Est-ce que là on est prêt à...
Non,
à
il semble que YouTube ne soit pas très fraternel aujourd'hui.
Bon.
Alors ce qu'on fera, c'est qu'on mettra la vidéo sur le site du centre et sur celui de l'ANSIB.
Je peux quand même juste dire du coup un petit peu de choses que vous auriez découvertes en visionnant cette vidéo. Parmi les piliers des imaginaires, nous organisons un café dit littéraire. Là aussi, ce sont des usagers de la bibliothèque ou des habitants de Saint-Médard-en-Jalles ou d'ailleurs même, qui viennent faire part d'un coup de cœur, d'un de leurs coups de cœur. Donc, ils ont 5 minutes pour convaincre l'assistance de l'intérêt de leur choix. Nous faisons la même chose également. Nous organisons un café cinéma et musique. Et à chaque fois, c'est pareil, c'est un habitant qui vient présenter un morceau ou la bande-annonce d'un film et il explique pourquoi il aime ceci et pourquoi il a envie de le partager. Ça, ce sont des piliers que nous organisons systématiquement dans chaque édition. Ce sont les valeurs sûres, si vous voulez. Donc le projet participatif principal et ensuite quelques projets comme ça qui sont vraiment incontournables. Sur les imaginaires qui ont été primés par le prix Livre Hebdo, nous avions une exposition totalement interactive qui nous avait été prêtée par la bibliothèque départementale de Pré de la Gironde qui s'appelle « Qui a refroidi le mort ?». Si vous ne la connaissez pas, je vous encourage vivement à la tester. Vous endossez le costume d'un détective. Vous êtes avec des tablettes tactiles devant des grands panneaux. Il faut scanner le flashcode et puis automatiquement vous allez pouvoir avoir accès à des éléments de réponse. Donc c'est totalement interactif. Nous avons aussi des actions pour la jeunesse, j'en parle peu, mais il y a quand même des séances de contes, de films. Mes collègues l'année dernière avaient organisé aussi des petites enquêtes dans la médiathèque. Nous avons aussi systématiquement, oui, un des piliers aussi des imaginaires, c'est une rencontre autour de l'art par rapport au thème retenu. Voilà, et nous avions aussi initié une murder party qu'on avait intitulée Mortelle soirée, qui a réuni 100 participants dans la ludomédiathèque et des gens très enthousiastes. Alors, on avait un cadavre, une scène de crime, une enquête à mener. Voilà, tout cela a été fort agréable. Et enfin, nous avions clôturé par une nuit du jeu, cette édition des imaginaires. Nuit du jeu, là aussi, où les habitants sont invités, bien sûr, à venir jouer avec nous. Et c'est vrai que Jean-Jean Olivier, dans ce qu'il disait tout à l'heure, le jeu est très fortement créateur de liens entre les personnes, peut-être plus facilement encore que ne le permet notre métier traditionnel. Voilà. Et puis donc l'enquête dans la ville qui a été primée, mais vous en saurez plus en allant sur YouTube si vous prenez la peine d'y aller. Voilà.
Donc on renonce à YouTube pour aujourd'hui, c'est ça ?
Oui.
Bon. Alors, avant de vous redonner la parole pour des questions, je voulais aussi vous donner un autre témoignage. En écoutant Raphaël Batz ce matin, je repensais à l'expérience que j'ai eue à la bibliothèque municipale de Pau. Là, on est en 1997-98. Il s'agissait d'ouvrir... Revenez vers nous. Il s'agissait d'ouvrir donc une médiathèque dans le quartier sensible de Pau, qui s'appelle Lousse des Bois, pour ceux qui connaissent. Dans le cadre de la politique de la ville. C'était en plus la première bibliothèque sur Pau où il y allait avoir autre chose que de l'imprimer. Donc l'idée, c'était aussi de faire venir les gens des autres quartiers. Il y a eu une consultation de la population sur le nom à donner à cette bibliothèque. Et il y a eu 3 propositions qui en ont été retenues et qui ont été proposées au conseil municipal, qui a retenu le nom qui, autant que je sache, est toujours le nom actuel, la médiathèque Trait d'Union. Et puis, au-delà de ça, la question, et là on rejoint bien l'ouvrage, là, pourquoi brûle-t-on des bibliothèques, la question était comment faire pour que cette bibliothèque ne soit pas brûlée à la première émeute dans le quartier. L'idée a été, alors vous allez me dire du coup c'est un peu utilitariste ensuite comme préoccupation, mais enfin la question était bien celle que je vous ai indiquée. En fait, c'est un ancien centre commercial qui avait été réutilisé, donc on n'était même pas dans de la construction neuve. L'idée a été de faire participer les habitants du quartier à la peinture de l'établissement. Donc, il y a eu un chantier de réinsertion professionnelle. Donc, j'ai participé avec quelqu'un donc, d'un organisme social donc, à la sélection. Moi, j'étais là vraiment pour représenter. J'étais donc directeur de la bibliothèque municipale. Et donc, on a recruté comme cela 12 personnes qui ont été formées à la peinture et donc qui ont peint le bâtiment. Et en ce couleur, ce sont tous les enfants des écoles du quartier qui sont venus mettre leurs mains dans la peinture de couleur et puis donc poser leurs mains tout autour du bâtiment. J'ai fait pareil, ainsi que le maire de Pau de l'époque, André Labarrère. Voilà. Alors, autant que je sache, parce que je ne suis pas retourné depuis à Pau, autant que je sache, le bâtiment a été respecté pendant très très longtemps, même pas tagué. Je crois qu'il a fini à un moment donné, quand même, dans une émeute, un certain nombre d'années plus tard, à également faire l'objet d'un début d'incendie. Mais c'est venu quand même très tardivement. Voilà. Donc là, on a été, vous voyez, un type vraiment de participation. Pour l'insertion d'un bâtiment dans un quartier, pour qu'il soit respecté. Effectivement, l'idée, je ne sais même plus qui l'a eue, en tout cas, ce n'est pas moi, je le regrette, l'idée, effectivement, que ce soit les enfants du quartier qui viennent à poser leurs mains, effectivement, ça, c'était aussi très, très symbolique et était de nature à créer une aura de respect autour de ce bâtiment. Voilà. Donc, maintenant, on vous redonne la parole. Je suppose que toutes ces interventions toniques, dynamiques, très stimulantes, suscite des questions, des réactions, des éléments de débat, d'autres témoignages, sans doute. Est-ce que malgré la chaleur qui nous envahit, est-ce que vous voulez... oui.
Bonjour, c'était juste une question sur les ateliers MAMI. Le rythme, la durée, sur combien de temps, sur une année, enfin le cycle.
On fait ça. Oui, si ça marche. On a l'habitude. Hein, ça. Les bugs font partie aussi du numérique et c'est là qu'ils sont intéressants, très révélateurs des comportements. Pour les mamies, disons que c'est tous les 15 jours. Et on fait du mois de septembre jusqu'au mois de mai. Voilà. Là, par exemple, on leur a donné des devoirs de vacances parce que l'idée, c'est de faire un film où elles seront les réalisatrices, évidemment toujours avec... Les propositions de médiation numérique dont je parlais. Et là, l'idée, c'est de... Elles vont faire un film sur Internet. Leur projection, leur vision d'Internet, là où elles en sont. Pour nous, ça sera aussi intéressant de voir comment, depuis 2013, comment l'évolution s'est produite. Et on trouve très intéressant qu'elles donnent des définitions, par exemple, du Wi-Fi avec leurs mots à elles. C'est toujours très, très pertinent. Et puis finalement, on y retrouve de la poésie. Et je pense que la poésie, c'est toujours mieux que les chiffres. Moi, je suis assez fan de la phrase de Cédric Villani, hein, qui est la Medalfield de mathématiques. Il dit les maths, c'est pas les chiffres, c'est l'agencement des idées. Plus modestement, je pense que tous les ateliers participatifs, c'est aussi des agencements d'idées, des petites formes de bricolage où on doit respecter justement l'agencement des idées des gens. Qui ne sont pas forcément d'ailleurs les mêmes projections mentales que celles des décideurs, des élus. Et ça aussi, je pense qu'il faut le respecter. C'est-à-dire que je pense que... moi, je ne suis pas du tout d'accord quand on fait un film revendiqué de la représentation d'un projet participatif par un service com d'une municipalité. Nous, on ne fera jamais ça. C'est-à-dire, dans le meilleur des cas, on file la caméra aux gens et ils font le film. Et si ça frotte avec les élus, eh ben, à la limite, tant mieux. Parce que ce matin, on parlait de démocratie participative, je pense que c'est ça. Et je pense qu'il est dangereux de donner trop de pouvoir aux services communication.
Un droit de réponse pour Evelyne.
Alors, si c'est l'intervention, la mienne que vous visez quand vous dites cela, je suis très à l'aise parce que justement, le service communication n'est juste intervenu que pour qu'on puisse garder en archive des souvenirs. Voilà.
Ça, je peux dire, je parle d'une façon
mais
générale.
Participation, par contre, dans Gondry,
faites
vraiment, là, on l'a fait à 300%.
Faites le faire par les gens. Je pense que ça,
on
c'est
l'a fait
encore
à 300%.
Mieux. Et vous aurez aussi une mémoire encore plus vive quand c'est fait par les gens.
Pourquoi pas? Mais ça nous demande déjà tellement d'énergie.
Alors, une autre question.
Oui. Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez fait quelque chose aussi autour de l'art. Vous pourriez nous expliquer? Merci.
Oui, alors j'ai un collègue bibliothécaire dans l'équipe qui est très calé en art et qui organise régulièrement des rencontres thématiques, soit pour découvrir des courants, faire découvrir des courants contemporains, soit un peu plus classiques en fonction de l'actualité des expositions. Mais dans le cadre des imaginaires, il crée notamment toujours un système de quiz, ce qui fait que les personnes qui assistent à ce diaporama, ce n'est pas vraiment une conférence, hein, ça permet d'introduire une petite notion de jeu, une notion ludique par rapport à ce quiz, également d'échanger avec eux autour des tableaux qui sont présentés.
Oui, juste une question. L'investissement en temps de vos équipes pour la préparation des 15 jours, c'est à peu près combien ?
On a estimé que le but de ça, puisque de cette manœuvre des imaginaires, qui était donc de nous faire reconnaître sur le territoire différemment, nous permettait aussi d'alléger notre politique d'animation sur le reste de l'année. Donc, si vous voulez, il y a eu un transfert d'énergie de temps passé sur toutes les animations diverses et variées, le restant de l'année, consacré aux imaginaires. Alors, en général, on y travaille un an à l'avance, hein, sur le brainstorming. Le brainstorming nous prend plus de temps. Aujourd'hui, nous déclinons très facilement les actions. Les acteurs du territoire sont en attente de notre sollicitation aussi à leur égard. Donc, en temps d'équipe, je dirais que ça représente par agent à peu près 10% sur 20 agents.
Bonjour. Moi, j'aurais une question. Le thème de la journée, c'est construire des pratiques participatives. Or, moi, j'ai l'impression d'avoir entendu les gens participent à des choses qui sont proposées par vous. Je voudrais savoir quelle est la part des usagers qui participent à la création de l'animation en elle-même. Est-ce que c'est le cas chez vous ? Est-ce que c'est vous qui proposez et les gens ensuite participent à l'atelier proposé ? Et pour Poitiers et pour Saint-Médard ?
Je veux bien répondre pour les mamies. Alors, pour les ateliers, je n'ai pas spécifié. On a la durée de l'atelier, c'est 3 heures. On fait 1h30 autour des outils numériques. Et puis après, parce qu'on a hésité pour appeler ça salon de thé numérique, mais on utilise le meilleur outil technologique qui plante jamais, c'est-à-dire la table, et puis théière et petits gâteaux. Et les moments de salon de thé permettent de préparer la séance d'après. Alors évidemment, il y a des moments où c'est spontané, et il y a des moments où c'est un peu induit. On a une petite idée, parce qu'on utilise le calendrier culturel. Par exemple, s'il y a une expo de Rainer Gross au musée dans les 15 jours après, on parle de cette exposition en disant est-ce que ça vous intéresserait d'aller voilà, photographier, faire une vidéo, interviewer le directeur du musée. Donc, à vrai dire, il y a un mix entre des choses spontanées, des choses qu'elles ont envie de faire parce que bah, voilà, elles ont galéré sur l'utilisation de la messagerie et puis un peu induit sur le calendrier culturel. Mais en général, c'est elles, par contre, qui choisissent la modalité du... Et on reprend exactement ce que donnait comme consigne Albertine Meunier. Moi, je les ai vues à la Gaîté Lyrique, l'atelier d'Albertine, remixer du Clash. Et un groupe de Japonais qui arrivait, ça les a un peu défrisés. Et les mamies qui étaient debout et qui reprenaient London Calling en chœur, ça avait vraiment de la gueule, quoi. Et il y a des moments de hasard comme ça, parce que c'est vrai qu'on leur a fait rencontrer quand même des artistes qu'on reçoit régulièrement. Et ces rencontres, parce que tous les artistes se sont prêtés au jeu, quoi. Il y a vraiment, et même eux, ça leur fait du bien de pouvoir expliquer à ces dames complètement déconnectées. Bon, on a eu par exemple un beatboxer, c'est un gars qui fait des sons de boîte à rythme avec sa bouche. Et puis elles ont essayé, enfin, c'était super rigolo, quoi. Enfin, c'est, voilà. Elles y vont, et nous, c'est notre grand plaisir quand elles nous disent, à la fin de l'atelier, vous nous faites retrouver l'esprit des 15 ans ou des 25 ans. Voilà, c'est une vraie énergie, une dynamique, et nous, ça, bah, ça nous porte aussi.
En ce qui concerne Saint-Médard-en-Jalles, je vous rappelle le contexte, première édition en 2010, donc le projet a été mis sur pied en 2008. À l'époque, on ne parlait pas tant que ça de participation des habitants à nos actions. Donc, nous sommes partis sur cette proposition des bibliothécaires envers la population. Et la participation peut facilement se décliner en collaboration. Mais au départ, c'était la participation. Donc, effectivement, nous aussi, nous envisageons un biblio-remix, etc., pour revoir tout le projet de service et l'orienter différemment. Mais les 5 éditions qui ont lieu étaient quand même basées sur ce contexte de 2009.
Je vais juste un petit témoignage par rapport au musée et aux bénévoles. Je ne sais pas si vous, dans les médiathèques, vous avez des sociétés d'amis des médiathèques, mais nous, dans les musées, on a des sociétés d'amis du musée. Et nous, on avait une vraie demande au musée de la Grande Guerre de gens vraiment investis, passionnés, avec cette notion de transmission de la mémoire et qui avaient vraiment envie de faire quelque chose pour le musée. Et nous, il fallait qu'on arrive à ne pas se faire envahir par toutes ces bonnes volontés. Et en fait, on a trouvé un bon compromis et on a donc créé au sein de la Société des Amis un club des récolleurs qui travaille à notre récollement. Et donc, ce sont des retraités qui viennent, ils sont 5 ou 6, et ils viennent une fois par semaine travailler dans les réserves avec quelqu'un de la conservation. Et donc, ils aident à faire du conditionnement d'œuvres, à faire celles qui maîtrisent la couture, font des housses pour nos portants, font des rembourrages de cintres pour nos uniformes. Enfin, voilà. Donc, c'est tout à fait concret. Et ils sont tout à fait contents. La Société des Amis, du coup, valorise ses heures de bénévolat dans son bilan annuel. Enfin, il y a vraiment, et c'est votre témoignage qui m'a fait penser à ça, parce que, donc, on n'est pas du tout sur des salariés, mais comme il y a aussi des retraités salariés dans votre exemple, bah, voilà, nous, on a des retraités de la Société des Amis qui viennent aussi nous aider tout à fait régulièrement. Et ils sont voilà, super. Et c'est un vrai apport et un vrai plus, en tout cas. Et ça a créé un vrai lien entre la société et le musée.
J'avais justement une question pour Agnès et Isabelle. Quels sont les engagements du bénévole ? Ça se traduit, il y a une espèce de contrat, si je puis dire.
Non, il n'y a pas d'engagement.
Il n'y a plus de plaisir, c'est ça.
Disons que non, lorsqu'ils viennent le premier jour, il y a une petite 2 heures de formation. Voilà. Et lors de cette formation, on explique qu'il y a un engagement quand même de venir au moins une fois par semaine, tout en sachant qu'on prend en compte bien sûr les contraintes et que voilà. Et c'est respecté. Je pense que le fait qu'ils soient salariés sur l'entreprise et que c'est les collègues, il n'y a pas. Et puis vraiment, ils apprécient. De ce qu'ils m'ont. J'ai fait une petite enquête avant de venir et leur demander leur motivation et pourquoi ils étaient venus être bénévoles à la médiathèque et pourquoi ils le restent. Et il y a vraiment un plaisir de couper avec la coupure du travail. Et le fait de rencontrer des collègues par ce biais-là, d'autres collègues, et le fait de rendre service et se sentir utile, ce qui n'est peut-être pas toujours le cas dans le milieu de l'assurance, où, des fois, se sentir utile. Donc là, au moins, il voilà, y a le sens du service direct, comme ça, parce qu'au siège, ce n'est pas des gens qui sont en lien avec le sociétaire. Donc, voilà.
Et donc, vous êtes uniquement sur une proposition spontanée de la part des personnes ? Vous êtes obligé parfois d'aller en stimuler, en susciter ?
J'en veux plus. Un petit turnover qui n'est pas. Bon. Mais j'ai effectivement des demandes là maintenant où j'ai stoppé là parce que après c'est pas gérable. Quoi. C'est trop. Mais en même temps, vu que j'ai des réflexions en cours, peut-être que ces personnes-là, je vais revenir vers elles pour leur proposer une autre forme de participation. Ce que je disais par rapport au projet tout à l'heure. Voilà.
Et j'ai une question pour Frédéric. Là, tu disais, alors j'ai peut-être pas tout vu comme j'avais pas l'image. Qu'il y avait donc des filières d'étudiants qui avaient beaucoup moins répondu que d'autres, hein, c'est ça, à l'enquête. Alors comment est-ce qu'on pourrait les stimuler ? Est-ce que les enseignants relayent ? Parce qu'on sait bien que quand ça ne passe pas par les enseignants, c'est souvent compliqué.
Ça sera mieux comme ça. En fait, on a des tout dépend de l'investissement qu'ils ont aussi dans la bibliothèque. C'est-à-dire qu'on a des filières qui sont très demandeuses de bibliothèques, très utilisatrices de bibliothèques, et qui sont très revendicatifs par rapport à la bibliothèque. Je pense aux médecins, notamment, ou aux juristes. Là où on a vraiment eu très, très, très peu de réponses, c'est chez les STAPS. On a eu 2%. Alors, c'est public particulier, c'est rapport aussi à documentation particulier. Après, il y a pas mal de STAPS qui nous ont dit, bah non, nous, on répond pas, on est contents. clairement, enfin voilà, il y a eu des filières sur lesquelles on n'a pas,
on n'a pas réussi à communiquer, ou certainement ça n'a pas été porté, ou on n'a pas communiqué peut-être assez bien par rapport à eux, vraisemblablement, parce qu'on sait que ce sont des gens qui viennent pour les STAPS, mais ils ne se sont pas du tout approprié l'enquête. Pour ceux qui la connaissent, c'est une enquête qui n'est pas facile à remplir. Hein, c'est pas intuitif. Ça prend du temps, ça demande de la réflexion, il faut comprendre la logique. Et ça fait partie des choses qui font que parfois le taux de représentativité, l'objectif de représentativité est difficile à atteindre. Donc souvent les universités, elles offrent des lots pour motiver un peu les troupes, ce que nous on n'a pas pu faire. Mais il y a des universités qui offrent des lots. Il y a Angers, il n'y a pas longtemps, ils ont organisé la filière qui répondait le plus pouvait organiser une soirée dans la bibliothèque. Ils avaient la nuit dans la bibliothèque. Ils leur prêtaient la bibliothèque pour faire une soirée. Mais non, nous, pour l'instant, on n'a pas fait ça encore. On y pense pour la prochaine.
Oui, c'est vrai qu'offrir des lots, c'est toujours stimulant. À la bibliothèque universitaire de La Rochelle, je me souviens qu'on avait pu offrir soit des chèques lire, soit des places pour des salles de concert, des spectacles. Hein. On a eu la bonne surprise de voir que souvent les étudiants préféraient les chèques lire plutôt que les billets pour les spectacles. Oui.
Oui, moi je voudrais faire une remarque d'ordre sémantique. Jusqu'à présent, depuis ce matin, depuis que je suis là, je constate qu'aucun de ceux qui ont pris la parole n'a eu, comme dirait Lionel Bourg, la cuistrerie d'utiliser une formule que moi je trouve très dévastatrice et qui est assez en vogue dans le langage administratif. C'est la formule dite des bonnes pratiques. Je trouve que c'est une formule désastreuse. C'est une formule qui est d'abord très manichéenne. Ça laisse à penser qu'il y a quelques bonnes pratiques et beaucoup de mauvaises pratiques, ce qui n'est évidemment pas le cas, et que c'est une formule aussi qui interdit toute réflexion sur les pratiques. Et je vois avec plaisir que dans cet auditoire, personne n'a fait référence à ce totem, qui est un totem que je trouve assez castrateur, en fin de compte, et qui traduit une vision assez fausse des choses quand on y pense. Si on était dans les années 60 et 70, et si on était dans les pratiques en matière d'urbanisme, les bonnes pratiques consistaient à construire des bars et des tours en périphérie. C'était la bonne façon d'administrer en matière d'urbanisme à cette époque-là. Qu'en est-il aujourd'hui ? Je vous laisse à réfléchir là-dessus. Bien évidemment, à mon sens, il n'y a pas de bonne pratique, il n'y a pas de vision manichéenne de l'action publique. C'est une action complexe qui se complexifie au fur et à mesure de la complexité de l'évolution de la société. Et je vois avec plaisir que personne n'a de réflexion là-dessus, n'a de façon de voir les choses aussi manichéennes.
Disons que ça pourrait être un sujet de dissertation. Je pense que c'est une notion relative, la notion de bonne pratique, ce qui est, effectivement.
Malgré tout, ça s'est présenté souvent comme un totem.
Ça peut être parfois des suggestions. Je sais que, par exemple, les rapports de l'inspection générale des bibliothèques maintenant font ressortir justement des bonnes pratiques à travers la France. Mais ce n'est toujours que des propositions, ça attire l'attention sur quelque chose qui fonctionne quelque part, mais peut-être que ce n'est peut-être pas adapté à toutes les situations, à tous les contextes. On voit bien aussi la diversité des situations, etc.
Je pense qu'il y a des visions émergentes. Enfin, c'est pareil, il faut se méfier de l'émergence. Hein. À la mode, c'est des modes. Mais par exemple, dans ce qu'on appelle les Fab Labs, le Do It Yourself, faites-le vous-même, peut s'aborder sans ce complexe de la pratique qui est sous les fourches codines d'une évaluation. l'importance, alors bon, c'est lié, c'est un débat à part entière, mais c'est lié au principe de capacitation, qui sont, je pense, des choses réelles, mais qu'à un moment, dès qu'on est dans une dynamique de groupe, on est vraiment sur un phénomène de complexité qui fait que chacun aborde aussi avec... je parlais des représentations, mais c'est aussi les capacités à aborder le numérique, à aborder la littérature. Sur un groupe de 10 personnes, chacun va aborder à un niveau... Et ça, cette capacité d'adaptation, c'est ce que j'appelle la capacité d'être un bon ou une bonne médiatrice. Je parlais de pédagogie très rapidement. On a tendance à parler de la pédagogie dans l'espace éducation nationale, dans l'espace de l'éducation populaire, qui est, bon, on va dire en ce moment un petit peu en mauvais état, mais qui reste finalement à redéfinir sous l'éclairage des possibilités qu'offre la culture numérique. Et une culture numérique, je le précise, avec un esprit critique derrière. Et donc, peut-être qu'on peut définir des bonnes pratiques, pourquoi pas, mais sous un angle complètement différent de celui des institutions qui souvent sont un peu poussiéreuses dans leur approche de l'analyse de ce qui se passe sur le terrain. Faire un Excel, tout le monde sait faire, mais analyser ce qui s'est réellement passé, ça prend un peu plus de temps.
Voilà, puis je crois, et ça sera le mot de la fin, je pense, pour cette table ronde, qu'effectivement, votre question, monsieur, montre que... La créativité garde toute sa place en tout lieu, en fonction des données locales, des situations, et puis des envies, du plaisir que chacun peut prendre à construire quelque chose. Donc c'est finalement encourageant et stimulant de se dire qu'il n'y a pas un modèle uniformément applicable et que c'est à créer, à co-créer, et puis effectivement en tenant compte des propositions des uns des autres, du public, des professionnels, etc. Bien, écoutez, je vous remercie. D'avoir gardé votre attention dans ces conditions un petit peu chaudes, mais enfin, je crois qu'on était tous passionnés par ce sujet. Je remercie les organisateurs de nous avoir donné l'occasion de nous réunir à ce sujet. Et j'aurai la parole, donc c'est à Bruno, c'est ça ?
Oui, merci Olivier, merci à toutes et à tous. On s'était dit que pour clore cette journée, d'une part, pas trop tard pour que tout le monde puisse rentrer tranquillement, et en même temps de la clore de façon un peu... ludique, fraternel, convivial, on s'était dit qu'on pouvait faire un petit moment un peu plus festif. Comme la journée est construite en partenariat avec l'ENSIB et que l'ENSIB est basée à Lyon, il nous avait proposé Bernard Lavillier. Nous, on s'est dit que Bernard Lavillier, finalement, on avait beaucoup mieux dans notre région Poitou-Charentes. Attention, ça va saigner. Je vous présente Fred Abrashkov.